Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Vous écoutez l'épisode 82 avec Caroline Jambon, maman, ex-professeure des écoles et l'auteur des blogs « Apprendre à éduquer » et « Apprendre, réviser et mémoriser ». Caroline est l'auteur du livre « Coéducation émotionnelle ». Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé par lui demander de parler de son parcours et ce qui l'a conduit à écrire ce livre. Et nous avons beaucoup échangé sur les émotions, dont la colère, les besoins et l'empathie. Donc nous n'avons pas eu le temps d'aborder en détail chacun des 10 principes de la coéducation émotionnelle, mais Caroline a énuméré ces 10 principes à la fin de l'épisode. Donc je vous invite vraiment à lire son livre. Alors moi je ne l'ai pas encore lu en entier, j'ai juste lu quelques passages, mais on sent que Caroline est experte sur ce sujet et elle partage ses connaissances d'une manière simple et efficace. Je laisse place à ma conversation avec Caroline Jambon. Bonjour Caroline, bienvenue sur le podcast.
Bonjour et merci de votre invitation.
On est là aujourd'hui pour parler de coéducation émotionnelle. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous parler déjà un petit peu de votre parcours et ce qui vous a conduit à écrire un livre sur ce sujet ?
Oui, alors donc je m'appelle Caroline Jambon, je suis blogueuse sur deux blogs, l'un plutôt consacré à la parentalité. Parentalité bien traitante, enfants, parents, et puis un autre qui est plutôt consacré aux apprentissages et à la pédagogie. Donc voilà, parce qu'en fait, à la base, bon, je fais une école de commerce, donc rien à voir avec l'éducation, puis je me suis reconvertie, j'ai passé le concours pour être professeure des écoles. Donc voilà, donc j'ai une vraie appétence aussi pour le côté pédagogie, apprentissage, et j'ai créé les blogs il y a maintenant 6 ans. Donc j'ai publié un essai donc, qui s'appelle « La coéducation émotionnelle » aux éditions Attier, il y a 2 ans déjà maintenant, c'était en 2019. Et l'idée de ce livre, c'était vraiment de dire, je voyais de plus en plus de critiques au sujet de la parentalité positive. Et moi-même, il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas toujours à l'aise. Ça m'arrivait plusieurs fois, notamment par exemple, de supprimer des articles que j'avais écrits sur le blog parce que je n'étais plus à l'aise avec ça. Et donc, l'idée, c'était vraiment de dire, OK, c'est bien d'avoir des conseils de parentalité positive, dire stop plutôt que non, proposer des choix aux enfants, des choses comme ça. Mais en fait, ça ne suffit pas toujours. Je lisais beaucoup de parents qui me disaient, mais moi, je formule mes consignes en langage positif et puis mon enfant, il continue. Mais moi, j'en peux plus de la parentalité positive. En fait, ça me met un énorme stress et j'explose de colère, mais parce que je me sens tellement coupable. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de me nourrir de ces critiques pour dire oui. La bientraitance éducative, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mais prenons soin à la fois des enfants et des parents aussi, et ne soyons pas des clones, c'est-à-dire qui vont dire toujours stop au même moment ou affirmer des consignes en langage positif, mais redonnons un petit peu de souplesse aussi pour qu'on soit pas que des parents, mais des humains qui sommes parents. Voilà.
D'accord. Et on va commencer par dire, enfin vous allez commencer par nous dire ce que la coéducation émotionnelle n'est pas. Avant de la définir, j'aime bien dire déjà ce que ce n'est pas.
Oui, alors Co-éducation émotionnelle, c'est pas de la parentalité positive, déjà, je pense que... alors, pas que je sois critique de la parentalité positive dans son entièreté, hein, je m'inscris aussi dans ce mouvement, mais l'idée, c'est de dire, allons voir, prenons en compte le contexte. En fait, l'idée, c'est vraiment de dire, avant de donner des conseils de communication bienveillante, positive, faisons un pas de côté, et allons voir au-delà de ce que nous donne à voir ou à entendre les enfants. Ne nous focalisons pas sur le comportement des enfants, mais voilà, allons explorer un petit peu à la fois le contexte, l'environnement, l'âge de l'enfant, l'histoire du parent. Donc voilà, ce ne sont pas des outils, c'est plutôt une manière d'aborder autrement la parentalité, mais même en fait les relations hein, au global, sans se focaliser sur faire quelque chose à l'enfant.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous entendez par coéducation émotionnelle ?
Alors, moi, cette idée m'est venue il y a après quelques années après l'ouverture du blog. Donc, c'est un long cheminement. Hein. Et l'idée, c'était vraiment de dire, mais en fait, moi, j'ai appris tellement de choses au contact de ma fille qu'elle m'a appris autant que je lui ai appris, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, c'est un co-travail où chacun, enfant et parent, et même conjoint, alors moi je m'exprime en tant que maman solo, mais voilà, en tant que couple, je pense que vraiment c'est un travail familial, où on a beaucoup de choses à apprendre en famille, les uns des autres, les uns sur les autres, comment être en lien, comment aimer, en fait, hein, aussi, je crois que c'est ça. Et du coup, l'idée de ce co, c'est de dire, et j'ai mis un trait d'union en fait entre co-éducation pour dire, bah, c'est presque un pont entre parents et enfants et même entre tous les membres de la famille. Et comment on se rejoint, comment on arrive à être en lien ensemble par une manière de raisonner avant de vouloir être dans des mots à dire, dans des phrases à dire, dans des choses à faire. Donc vraiment, c'est une manière d'être, de penser notre histoire, nos liens, et comment on s'élève un peu dans une spirale ascensionnelle où les enfants ils vont venir faire des crises de colère, parce que ce sont des enfants et que c'est normal. Ils vont venir nous grimper sur la table basse, ils vont venir nous escalader, et puis ça va venir toucher des choses en nous où peut-être on va se trouver à être plus virulent que ce qu'on aurait voulu être. On va se mettre en colère. Et du coup, ça va générer de la culpabilité en nous, parce qu'on va se sentir pas hyper à l'aise avec ça, avec le fait d'avoir crié, avec le fait peut-être d'avoir tapé. Et c'est plutôt bien, hein, c'est une culpabilité heureuse, parce qu'elle nous dit que taper et crier, c'est pas des choses auxquelles on aspire. Donc on va travailler là-dessus, on va se dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place ? Je vais demander peut-être conseil à des amis, en parler à mon conjoint. Si je vois que c'est récurrent, que je me vois devenir peut-être violent et que j'arrive pas à réprimer mes gestes, je vais peut-être aller consulter un thérapeute. Enfin, voilà, moi je vais travailler sur moi en tant que parent. Du coup, je vais être plus compétent pour accompagner les émotions de mon enfant parce que je ne vais plus les prendre comme des affronts, mais comme juste des choses qu'il fait pour lui et qui sont normales à son âge. Et du coup, quand je vais être capable d'accueillir ces émotions et éventuellement d'enseigner d'autres compétences émotionnelles, mon enfant, lui aussi, va devenir plus compétent. Et voilà, et l'idée, c'est vraiment que chacun s'élève dans cette relation où on a tous à apprendre et où on va cheminer vers des relations familiales plus harmonieuse, ça ne veut pas dire sans conflit, sans désaccord, mais en tout cas où les conflits et désaccords sont accueillis comme un mouvement de la vie avec lequel on fait plutôt que contre lequel on lutte.
Ouais, donc dans co-éducation, il y a vraiment cette idée que c'est dans les deux sens, que le parent apprend aussi, s'élève et voilà, c'est pas que...
C'est vraiment ça, qu'on a autant à apprendre de nos enfants que les enfants... Enfin, que nous, on a des choses à leur apporter, en fait.
Oui. Et il y a une phrase sur la couverture de votre livre qui mérite, je trouve, cette phrase, elle mérite qu'on s'arrête un petit peu dessus. Vous avez écrit « C'est s'élever en même temps qu'on élève les enfants ». Donc, ça rejoint un peu ce que vous venez de dire, hein, mais...
C'est exactement ça. C'est de dire, en fait, profitons de la parentalité pour apprendre des choses sur nous, pour découvrir peut-être des choses qui étaient restées jusque-là un peu en jachère sur nous. Qu'est-ce qui vient me toucher profondément ? Quelles sont mes aspirations en tant que parent ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes relations ? Et peut-être que ça va m'amener à changer de travail peut-être, à déménager parce que ce à quoi j'aspire, c'est une vie plus calme, plus proche de mes propres parents pour avoir du soutien. Enfin, voilà, en fait, de se laisser transformer aussi par la parentalité pour repenser à un aménagement de la vie. Et puis peut-être aussi se laisser toucher par la spontanéité de nos enfants, pour se reconnecter avec des choses qu'on avait pu oublier parce que, en tant qu'adulte, des fois, on est un petit peu trop sérieux. Donc voilà, c'est l'idée aussi de dire, mais qu'est-ce que je peux, moi, comment je peux me découvrir, me réaliser au contact de mes enfants?
Et quand vous dites s'élever en même temps que nos enfants, ça, j'ai envie de rebondir dès maintenant sur l'histoire personnelle de chaque parent. Enfin, chaque parent a une histoire personnelle et peut avoir vécu des choses difficiles dans l'enfance. Comment est-ce que ça, c'est un sujet, je crois, que vous abordez dans le livre. Comment
Oui, c'est un entier du livre,
voilà. Donc comment, enfin la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment guérir d'une si nos relations ont été compliquées quand on était enfant, si nos relations avec nos parents ont été compliquées, qu'on a vécu des choses difficiles, comment faire en sorte que ça ne vienne pas enfin, non, déjà ma première question, c'est est-ce que ça aura une influence sur la relation qu'on a après avec nos enfants en tant qu'adultes?
Alors, oui et non. Ça dépend parce qu'en fait, on n'est jamais programmé ni complètement par notre histoire personnelle, ni par notre génétique. C'est vraiment un entremêlement de facteurs. Donc, alors, ce qu'on dit, et ce que, voilà, ce que la psychologie dit, c'est qu'en général, quand on a été maltraité, si on n'a pas travaillé ça, il y a de grandes chances, mais ce n'est pas forcé, qu'on soit soi-même maltraitant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par maltraitant aussi?
Oui.
C'est-à-dire un parent qui a été vraiment maltraité avec, je ne sais pas, des coups de ceinture, des douches froides, des enfermements dans la cave, des choses voilà, très très difficiles, des humiliations. Il va avoir une mémoire traumatique en fait. Ça développe, c'est-à-dire que, en fait, quand on nous laisse pleurer, quand on nous humilie, quand on nous isole, dans l'enfance, hein, et ben en fait, ça équivaut à presque une menace de mort pour le bébé, parce que le bébé, l'enfant, il peut pas survivre tout seul. Et quand il se sent abandonné, et ben ça active une détresse mais immense en lui, parce que ça être seul équivaut à danger de mort. Et l'attachement, notre nature de mammifère et notre système d'attachement, hein, de survie, de gestion du stress, veut qu'on appelle de l'aide parce que nous sommes démunis bébés, enfants. Et la nature veut qu'un parent, ou en tout cas une personne proche, vienne apaiser cette détresse. Si personne ne vient apaiser cette détresse, ça, en fait, comme on peut vraiment mourir, parce qu'en fait on peut mourir d'une crise de stress, parce que ce sont des hormones qui vont accélérer les battements du cœur, parce que ça donne de l'énergie justement pour normalement se défendre contre un danger. Le cœur bat tellement fort qu'on peut en fait mourir, hein, d'une crise de stress, c'est pas un mythe. Mais le corps humain est plutôt bien fait, donc il y a un système qui va faire disjoncter ce système. Par contre, la contrepartie, c'est que du coup, cette expérience, elle n'est pas consciente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas emmagasinée comme une expérience autobiographique. Elle reste dans un pan de la mémoire, emmagasinée, et on ne s'en souvient plus puisque la mémoire a fait en sorte qu'on ne s'en... Alors, je schématise beaucoup, et voilà, c'est pour la compréhension, mais en tout cas, c'est pour dire que cette expérience reste dans la mémoire inconsciente. En fait, nos enfants peuvent être des réactivateurs de ces angoisses profondes. Et nous, en tant que parents, on peut crier, taper, frapper pour éviter de ressentir cette peur qu'on a éprouvée d'être abandonné, qui était équivalent à une menace de mort. Et donc, en fait, un cri, une fessée, une gifle ne partent jamais tout seuls. C'est la mémoire traumatique qui est réactivée. Sauf que ce n'est pas systématique, on peut travailler là-dessus et c'est bien tout l'intérêt d'une thérapie. Hein. La psychothérapie n'existerait pas si on était toujours figé dans nos comportements. Mais la première étape, c'est déjà de reconnaître ça. C'est de reconnaître qu'en fait, ce n'est pas normal et c'est maltraitant de laisser un bébé pleurer sans répondre à ses pleurs, d'isoler un enfant en crise en le forçant à rester dans sa chambre et en fermant la porte et en disant calme-toi, de toute façon, t'as que tout ce que tu mérites, ou voilà, ou de frapper un enfant, gifle, tape, pincer, tirer l'oreille, tirer les cheveux. Déjà, ça, c'est une première étape, dire c'est non, c'est maltraitant. Et peut-être d'éprouver de la colère contre le parent, de dire il n'avait pas le droit de me traiter ainsi. Et c'est injuste. Et en fait, ma colère, elle est légitime parce qu'ils ont manqué de respect pour mon intégrité, pour mes limites corporelles, pour. Voilà. Donc, déjà, être là-dedans, être dans je reconnais que c'était maltraitant et je m'autorise à éprouver de l'indignation, à laisser éclater cette indignation envers mes parents. Donc, ça ne veut pas dire accuser mes parents et couper les ponts. Ça peut. Mais c'est pas forcément ça. Mais déjà pour moi, de me dire c'était maltraitant, je suis en colère contre mes parents, je m'autorise cette colère, et trouver des gens qui vont partager en fait cette indignation. Donc ça peut se faire avec des amis, des personnes sensibilisées aux violences éducatives ordinaires et puis à leurs conséquences, dans un couple aussi, un couple solide, dans une relation authentique où on va pouvoir exprimer ses émotions difficiles et le partenaire est capable d'accueillir ça, ou alors via une thérapie aussi, hein, qui peut être utile. Et l'idée, c'est vraiment de dire je dépose ça pour pouvoir prendre l'engagement et être le parent auquel j'aspire. Voilà.
Mais ce que vous dites, et dans le cas de violences éducatives ordinaires moins fortes, moins importantes, parce que là vous avez cité des choses vraiment graves, du style des petites phrases, serre les dents, mais non, t'as pas mal, ou vous voyez, c'est ce genre de petites phrases qu'on entend souvent.
En fait, le mécanisme est le même, c'est-à-dire s'autoriser à dire, mais en fait, ce n'était pas vraiment ajusté. Et en fait, moi, du coup, maintenant, au lieu, par exemple, d'être en colère quand quelqu'un m'agresse ou enfin, voilà, manque de respect pour mes limites personnelles, ben, je vais plutôt éprouver de la tristesse. En fait, je vais me refermer. Alors que normalement, c'est de la colère. Je devrais dire, stop, là, enfin, voilà. En fait, il y a aussi aller voir. Est-ce que j'ai une émotion dominante parce qu'il y a une autre qui a été censurée dans mon enfance? J'avais pas le droit de pleurer, par exemple. Donc, du coup, je vais plutôt me mettre en colère au lieu d'être triste, au lieu d'être dans un espèce de repli où je vais me donner le temps de pleurer, le temps dont j'ai besoin, parce que les pleurs, ça va me permettre de faire le deuil. En fait, je vais me mettre en colère, je vais attaquer tout le monde là où ça devrait être de la tristesse. Donc, vous voyez, c'est aussi de dire, peut-être me renseigner sur. Qu'est-ce qu'une émotion? Comment ça marche? À quoi correspond une réaction appropriée? Et me rendre compte que moi, ben en fait, je ne suis pas tout à fait ajustée. Et d'aller venir travailler ça.
Oui, donc le
Et
fait de...
aussi,
Oui, pardon, allez-y.
bon, en fait, c'était juste pour rebondir sur l'idée aussi de la coéducation émotionnelle. Quand moi, je suis capable de faire ça en tant que parent, ben, je suis capable de l'offrir à mon enfant. Et du coup, mon enfant, eh ben, lui, il va pas traîner ces espèces de casseroles qui vont un peu l'embêter dans sa vie parce qu'on dégrade l'estime de soi, pareil, la qualité des relations, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Puis on sent bien qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait ajusté dans le corps et puis dans les réactions.
Donc le fait de réfléchir, d'avoir, il y a le mot métacognition qui me vient, alors que là c'est pas le bon mot, mais le fait de réfléchir à ce qu'on a vécu en tant qu'enfant peut vraiment être bénéfique après dans la relation avec notre enfant, même si c'était pas forcément des choses très injustes, mais le fait de prendre le temps de dire qu'est-ce que j'ai vécu en tant qu'enfant enfin pour vous c'est bénéfique dans notre relation après avec nos enfants.
Oui, et du coup, par contre, parfois, on n'en est pas conscient de ça. C'est-à-dire, par exemple, moi, pareil, j'avais un peu de mal à me mettre en colère. J'avais tendance à plutôt serrer les dents. Et ça, je m'en suis rendu compte au contact avec ma fille. C'est-à-dire que c'est elle qui a, dans ma relation à elle, où je me voyais lui dire, ah, oh, mais arrête ta comédie. Non, mais là, tu te mets dans des états pas possibles pour rien. Puis, je voyais bien que. Mais si elle réagissait comme ça, c'est que ça devait bien être approprié pour elle, c'est qu'il y avait probablement une bonne raison. Et je me suis rendu compte que c'est moi qui n'arrivais pas à accueillir ça. Et donc j'ai cherché bah, d'où ça vient, comment ça se fait que, en fait, je me rends bien compte qu'elle ne cherche pas à me tester, ce n'est pas un affront. Elle se met en colère pour elle, pour se restaurer, pour restaurer son intégrité. Et puis quand je laisse faire, bah, au bout de 2-3 minutes, le mouvement de la vie quotidienne reprend et en fait, mais laisse-la être dans cet état si c'est ce dont elle a besoin. Donc en fait, c'est pas toujours nous qui avons conscience qu'il y a des petites choses à travailler, c'est dans la relation, je veux dire, tiens, je vais mettre le doigt sur quelque chose peut-être qui est un peu grippé, que je peux travailler pour ajouter un petit peu de souplesse dans la relation, puis ça va m'être bénéfique à moi en tant qu'humain, pas qu'en tant que parent, et du coup à mon enfant.
D'accord. Et donc on va aborder le sujet des émotions, forcément c'est le cœur du sujet. Depuis que j'ai participé à des stages de CNV, je ne parle plus d'émotions négatives et positives, mais d'émotions agréables et désagréables, parce que voilà, je vois les émotions comme des signaux qui nous apportent des informations importantes sur nos besoins. Est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Oui, clairement. Enfin, alors moi, je mentionne Marshall Rosenberg, hein, qui est concepteur du processus de communication non violente dans l'essai, la communication émotionnelle. Même si c'est pas un essai de communication non violente, mais voilà, évidemment, j'ai appris beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, en fait, les émotions, elles sont pas dangereuses. Elles racontent des choses sur nos valeurs, sur nos aspirations, sur ce qui est précieux pour nous. Et plus la chose qui est touchée en moi va être importante, va toucher un rêve, un espoir, une aspiration, plus je vais réagir de manière un peu virulente. Mais ce n'est pas un problème, c'est juste, ça me donne un message, effectivement, sur, ben voilà, ça c'est important pour moi. Et puis, on peut très bien faire avec, plutôt que les censurer, parce qu'en fait, parler d'émotions agréables, ça veut dire, comme la joie par exemple, la confiance, l'amour, ça veut dire que mes besoins, ils sont satisfaits, et ça se traduit par une espèce de légèreté en moi. Les émotions, elles sont toujours liées à des sensations dans le corps. Il y a une espèce de truc quand je ressens une émotion agréable qui me pousse vers le haut, qui me dit encore. Hein, c'est agréable. Et l'émotion désagréable, donc ça va plutôt être colère, tristesse, peur, dégoût. En fait, elle me signale que j'ai des besoins qui sont insatisfaits et ça va plutôt se tendre, se contracter en moi. C'est mon corps qui est en train de me dire « Non, là, j'en veux plus. Stop. » Donc voilà. Et je peux être à l'écoute de ces sensations, de ce qui se passe dans mon corps et faire avec et dire « Ok, bon, tu es là, émotion, bah, je t'écoute. Je vais te prendre en compte. » Et en général, quand on la laisse faire, quand on la prend en compte, bah, elle disparaît comme elle est arrivée puisqu'elle a fait son travail. Donc, elle n'a plus d'utilité et elle repart.
D'accord. Et dans le livre, j'ai vu que vous preniez plusieurs émotions et que pour chaque émotion, vous décriviez les sensations, les mouvements, les pensées, les stratégies de régulation et les besoins profonds. Est-ce que vous pourriez choisir une émotion désagréable, par exemple, et puis décrire toutes ces étapes, enfin...
Oui, alors j'ai envie de prendre la colère parce que c'est souvent l'émotion qui est sujet de vraiment de malentendus. Alors je vais dire entre enfants et parents, mais en même temps je crois que de manière générale, puisque et c'est pour ça aussi que moi je me suis un peu éloignée de la parentalité positive, alors du mot en tout cas positif, parce qu'on a tendance à dire il faut pas se mettre en colère, pensez positive, vois le côté positif, mais non, mais la colère elle a pas d'utilité. Et ouais, mais en fait la nature elle fait jamais rien d'inutile, c'est-à-dire que si la colère existe, c'est bien qu'elle a une fonction chez nous. Donc, en fait, la colère, elle a vraiment plusieurs visages. Elle nous permet de se réparer face à un échec. Elle permet de se révolter face à l'injustice. C'est bien la colère qui va nous donner cette énergie pour avancer, pour vraiment, ou alors pour repousser aussi. C'est la colère qui va me permettre de restaurer mon intégrité face à aussi à une effraction de mon espace vital. Donc, c'est celle qui va me permettre de poser mes limites. La colère, elle me permet aussi de me remettre d'une déception, d'une frustration. Donc et souvent, la colère, c'est le garde du corps un peu, d'émotions plus vulnérables. Parce que souvent, quand on laisse la colère aller jusqu'au bout, on va se mettre à pleurer. Et souvent, derrière la colère, il y a de la tristesse, par exemple, en parentalité, quand on se met en colère contre un enfant qui a traversé la route, par exemple, sans regarder. Ou qui n'a pas ses brassards et qui s'approche un peu trop près de la piscine. Je ne sais pas si vous voyez, assez vite on peut se dire oui, ça va être de la colère chez nous qui émerge en tant que parents parce que on ne voulait pas qu'ils traversent la route sans traverser. Où on a eu... Et en fait, c'est de la peur.
Oui,
c'est pas de la colère qui devrait émerger. Donc derrière la colère qui peut-être me signale un échec, alors, je le mets entre guillemets, on ne voit pas, mais un échec, en tout cas une inattention. Donc c'est de la colère contre moi-même qui émerge parce que c'était ma responsabilité de veiller à la sécurité de mon enfant. Si je la laisse aller jusqu'au bout, je me rends bien compte que c'était de la peur pour sa sécurité et le besoin insatisfait, c'était justement de veiller à sa protection et de me sentir compétent en tant que parent. Donc voilà, donc la colère, je pense que vraiment, elle s'exprime par un état de tension. C'est ce que je disais tout à l'heure, on dit qu'elle est désagréable parce que ça se serre, ça se crispe, hein, c'est les sourcils qui se froncent, les poings qui se serrent, et elle est là pour repousser, pour défendre, pour dénoncer. Et ce qui accompagne en général l'émotion de colère, ça va être des pensées. On peut penser à se venger, par exemple. On veut penser à avoir raison ou à demander une réparation, par exemple, ou des excuses. Donc, en fait, la colère n'est pas un problème en soi quand on la voit de ce côté-là. Mais ce qui peut arriver, c'est que la colère se transforme en violence quand on n'a pas bien appris à la réguler. La colère se transforme en ressentiment, c'est-à-dire que les pensées, on va se les ressasser, donc on perd le bénéfice de la colère, qui est justement ce mouvement qui monte et qui va me permettre de me restaurer. Et par contre, on va être dans quelque chose qui va durer plus longtemps, qui va ressasser, peut-être qui va m'amener à faire des gestes violents, à me venger, à élaborer des stratégies pour faire du mal à autrui, pour qu'il souffre autant qu'il m'a fait souffrir. Donc, on peut là activer des stratégies de régulation pour éviter de basculer dans cette colère destructrice, comme libérer l'énergie de colère. Si je ne peux pas justement me défendre, cette énergie, il faut qu'elle sorte à un moment. Donc, je peux aller sauter, courir, crier dans un coussin, par exemple, si je ne veux pas faire peur à mon enfant, aller prendre l'air. Et puis, ce que je peux faire une fois que cette énergie, elle est libérée, que j'ai pris en compte ces sensations, je me dis, ok, ça, c'est de la colère. Et puis, peut-être, c'est une vraie colère. Son intensité, là, elle est à 8 sur 10. Je suis presque au niveau de la rage. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'ai besoin de respect, de considération. Qu'est-ce que je peux demander? Je vais peut-être agir pour plus de justice. Je vais formuler une demande à la personne qui est à l'origine de cette émotion pour qu'elle s'excuse, par exemple, pour qu'elle répare, pour qu'elle me considère, en tout cas. Voilà. L'idée, c'est vraiment de dire comment j'utilise cette émotion pour satisfaire mes besoins, en sachant que c'est OK que je sois en colère. Juste, sur quel message est-ce que ma colère attire mon attention? Qu'est-ce que j'en fais?
D'accord. Et vous avez déjà un peu répondu à cette question que j'avais préparée. J'avais marqué que c'est difficile d'être témoin de la colère de nos enfants. Comment peut-on les aider? Donc, tout à l'heure, vous avez dit, des fois, ma fille se met en colère, j'attends juste que ça passe, et au bout de 3-4 minutes, ça passe. Et imaginons que quand ça passe moins vite, que faites-vous?
Alors, c'est rigolo parce que ça me fait penser à une anecdote. Ma fille est grande maintenant, elle a 12 ans, et l'autre jour, on allait au collège à pied, et puis elle me dit, oh, maman, tu te rappelles? Alors, elle était dans ses pensées, je ne sais pas, ça arrivait complètement comme un cheveu sur la soupe. Tu te rappelles une fois quand j'étais petite? Tu faisais une soupe de carottes. Et puis, j'ai pris la carotte, je l'ai cassée en deux, et je lui ai dit, maman, tu m'énerves tellement que j'aimerais que tu sois la carotte. Et puis après, elle a jeté les deux morceaux dans la casserole pour la faire bouillir. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Je dis, ah oui, non, je me rappelais pas trop de ça. Et elle me dit, ah ouais, mais j'étais vraiment en colère contre toi. Mais je sais plus trop pourquoi. Et en fait, je me suis dit, j'étais contente parce que je me suis dit, je lui ai permis d'exprimer sa colère, toujours, depuis assez petite. Elle avait 2 ans et demi quand j'ai commencé à m'intéresser justement à l'intelligence émotionnelle et à la parentalité positive. Et l'idée, c'était qu'elle ne m'attaque pas ou qu'elle n'attaque pas les gens, mais qu'elle se donne le droit de dire « ça, c'est de la colère » et de passer à l'action, ou en tout cas, dans l'imagination, qu'elle ait des stratégies pour dire « moi je suis en colère et regarde ce que j'avais envie de te faire. J'avais envie de te casser en deux, comme cette carotte, et de te faire bouillir. Et en fait, je ne sais même plus ce qui s'est passé après, et elle non plus, parce que juste une fois qu'elle a pu l'exprimer, qu'elle était en colère contre moi, et moi je pense que j'ai dû accueillir ça en disant « Ah ouais, bah t'étais vachement en colère contre moi, hein, ma vache !» Et ben, ça suffit. Donc voilà, on peut donner des petits outils aux enfants, juste donner des mots déjà, des mots de vocabulaire quand on voit qu'on est en colère. « Ah ouais, ça c'est une grosse colère. » Dire passer par des couleurs avec les petits, ça marche bien. Dire « Voilà, j'ai l'impression que tu es dans le orange et t'es pas loin de passer au rouge. Hein. J'ai l'impression que là, tu vas bientôt exploser comme un gros tigre. T'as envie de faire de rugir comme le tigre ?» Ou quelque chose que ma fille aimait beaucoup aussi quand elle était plus petite, c'était je dis, ah voilà, t'es hyper en colère, montre-moi comment t'es en colère. Et en fait, je lui donnais une feuille et des crayons. Puis je disais, vas-y, dessine ta colère. T'as le droit de déchirer la feuille si t'appuies beaucoup avec ton crayon, parce que c'est peut-être que ta colère, elle est vraiment grosse. Et je m'en rappelle plusieurs fois avoir donné 3-4 feuilles, et les 3-4 étaient déchirées parce qu'elle avait appuyé tellement fort et puis elle avait dépassé de partout. Et puis en fait, après, bah, une fois que c'était exprimé, voilà, enfin, en fait, il n'y a pas besoin de harceler les enfants pour leur dire, mais dis-moi pourquoi tu es en colère, ou de chercher à toujours leur dire, oui, vas-y, respire ou quoi. Parfois, c'est aussi leur dire, vas-y, saute, bouge, crie, dessine. Et je me rappelle d'une autre fois où ma fille a été gardée, parce que je travaillais un soir, et donc, c'était ma cousine qui la gardait, peu importe. Et quand je suis rentrée le soir, sur la table du salon, j'ai vu un bonhomme rouge énorme sur une feuille où c'était marqué « Je suis en colère !» avec plein de points d'exclamation. Et en fait, c'est ma fille, alors je ne sais même plus ce qui s'était passé aussi à l'époque, mais qui avait été capable d'exprimer sa colère à la personne qui la gardait, et sans attaquer, sans agresser, sans taper, mais juste parce qu'elle savait qu'elle avait le droit de le dire et qu'elle avait des outils à sa disposition pour le dire.
Ouais, donc ce que vous dites là, c'est, en fait, c'est important que l'enfant, et l'adulte aussi, mais que l'enfant puisse exprimer sa colère, le dire avec des mots ou avec la carotte, parce que ça fait de mal à personne. Mais du coup, ça m'a fait penser à la citation de Haïm Jinot, je ne sais pas si je le prononce bien, quand il dit « Toutes les émotions sont légitimes, mais tous les comportements ne sont pas acceptables ». J'aime beaucoup cette citation, je l'ai beaucoup répétée à mes filles à la maison. Et donc là, l'exemple de la carotte, en fait, c'est ça. C'est, bah oui, la carotte, la feuille, tu peux voilà, exprimer ta colère. Par contre, bah, tu ne peux pas taper, tu peux pas nous taper, quoi, par exemple.
C'est ça, ouais, exactement. Et alors, du coup, c'est aussi de rediriger chez les petits hein, qui sont impulsifs et qui vont peut-être mordre, taper, avoir des gestes, nous, qu'on va estimer violents, mais qui sont juste parce qu'ils n'arrivent pas à inhiber leur impulsion motrice. Bah voilà, rediriger, dire stop. Et dire un stop un peu ferme et peut-être même avec une posture... Des yeux froncés, c'est pas de la maltraitance, hein. C'est pas un abus de pouvoir, c'est un moment dire ça c'est ma limite, taper c'est non, c'est non, jamais, je te laisserai jamais taper, et je redirige après gentiment, hein. On n'a pas besoin de prendre, d'agripper la main de l'enfant qui tape pour lui faire mal, on n'a pas besoin de souffrir pour comprendre, pour apprendre. Et voilà, et aussi longtemps que l'enfant en a besoin, et puis au bout d'un moment, bah, ça deviendra quelque chose de voilà, qu'il aura appris, parce que déjà il va grandir, donc bah, il va être plus capable de réguler ses impulsions, et puis nous, on va lui montrer aussi des modèles de régulation de nos propres émotions, et puis à force de le rediriger, et puis d'accueillir ce qu'il aime, bah, il va développer ses propres compétences émotionnelles. Donc je ne voudrais pas non plus faire croire que c'est quelque chose qui, en un coup de baguette magique, parce que j'ai proposé une fois à ma fille de dessiner sa colère, qu'elle ne va plus jamais faire de colère et que ça va être un exemple d'intelligence émotionnelle. Hein. Je ne veux pas non plus faire croire que c'est facile et que ça ne demande pas de temps. Les apprentissages demandent du temps. Mais quand on est assez serein pour savoir que c'est une voie qui nous paraît juste à nous et qu'on se rend compte que et ben ça améliore les relations au quotidien, on est plus voilà, on va persévérer dans cette dans ce chemin. Et puis c'est au bout d'un moment, parfois moi vous voyez ma fille elle a 12 ans, elle m'a raconté une anecdote qu'elle devait avoir 4 ou 5 ans et bah voilà, il s'est quand même écoulé un petit peu de temps avant que je me rende compte que ah oh ouais, cool, bah, ça paye un petit peu tous ces efforts quoi.
Ouais. Et là, à l'instant, vous avez dit quand elle faisait une colère. Est-ce que vous faites la différence entre faire une colère ou être en colère?
Ouais.
Je vous embête.
Non, non, c'est pas ça. C'est. Ouais, faire une colère. Je trouve que c'est un abus de langage. Alors, qu'est-ce que je mets derrière? Alors, du coup, qu'est-ce que je mets derrière quand je dis elle fait une colère? Oui, elle est en colère pour une bonne raison pour elle. C'est une bonne raison pour elle. Peut-être que moi, je vais trouver peut-être disproportionnée, excessive, infantile. Mais infantile, on parle d'enfant. Hein. Donc oui, non, mais ça, c'est un abus de langage. Moi, j'estime qu'il n'y a jamais de colère, pas de caprice. En fait, faire une colère, ça peut être rapproché de lui faire un caprice. Il joue à la comédie, quoi. Alors, je sais que cette idée de caprice, parfois, elle fait un peu polémique. Parce que, alors moi j'estime qu'il n'y a pas de caprice dans le sens où c'est juste qu'on n'a pas, si on parle de caprice, c'est qu'on n'a pas réussi à décoder ce qu'il y avait derrière en fait. Mais il se peut que certains enfants, on a vraiment l'impression qu'ils font des crises pour rien ou pour chercher son monde, quoi. Voilà. Mais souvent c'est parce qu'en fait ils ont appris à fonctionner comme ça. Et souvent, c'est le parent qui a commencé, ou l'environnement en tout cas. Alors, et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment écrit mon livre « Apprendre à raisonner autrement », c'est-à-dire un enfant qui fait une crise, qui fait un caprice, qui joue la comédie, il fait en général au mieux dans le contexte dans lequel il se trouve, avec les personnes qui l'entourent, avec son niveau de développement moteur, cognitif, affectif, et voilà, et avec les compétences qu'il a développées, qu'il a apprises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, est-ce que dans son environnement, il y a quelque chose qui fait obstacle ? Ben ça, je pense que ça vous parle bien, hein, parce que c'est la pédagogie Montessori aussi, de dire, un enfant peut-être qui fait une crise, je suis encore entre parenthèses, enfin entre guillemets, mais on ne me voit pas du coup, pour mettre ses chaussures, mettre ses bottes, par exemple, parce qu'il pleut. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il est pénible ou est-ce que c'est parce que peut-être qu'il aurait aimé attraper ses bottes tout seul, mais qu'elles sont en hauteur, donc il ne peut pas? Ou peut-être parce qu'il aurait aimé les mettre tout seul, mais comme il n'y a pas de petit banc, il n'y a pas d'endroit dans l'entrée pour s'installer confortablement, il ne peut pas? Ou peut-être parce qu'il sait que mettre les bottes, c'est le signe de départ à l'école et qu'en fait, il aurait envie de rester un petit peu plus longtemps avec papa, maman, les frères et sœurs. Donc, en fait, c'est vraiment, voilà, essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on, nous, on nomme caprice, comédie, crise. Et est-ce que c'est son seul moyen à lui de nous signifier quelque chose parce qu'il n'a pas encore les mots, parce qu'il n'a pas encore les capacités de nous dire mais moi je suis fatiguée, j'aimerais bien rester à la maison ou laisse-moi faire tout seul. Enfin voilà, donc c'est vraiment l'idée d'aller voir derrière. Qu'est-ce qui se joue derrière? Mettons le décodeur.
D'accord. Alors j'avais noté aussi une question sur la différence entre bienveillance et bientraitance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence?
Oui. Alors, bienveillance, moi, c'est un mot que j'utilise de moins en moins, du coup, parce que je me suis rendu compte qu'on peut être bienveillant et continuer à être disrespectueux de l'intégrité de l'enfant. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est vouloir le bien de quelqu'un, des enfants en l'occurrence, dans l'éducation bienveillante. Sauf que je veux vouloir le bien de mon enfant, qu'il soit en bonne santé, donc qu'il mange des fruits et des légumes, qu'il dorme 10 heures par jour, et donc le forcer à manger des fruits et des légumes, ou le laisser pleurer dans son lit, parce que je ne veux pas qu'il se relève, parce que je veux qu'il dorme, en tout cas qu'il soit dans sa chambre, 10 heures par nuit. Donc, vous voyez, en fait, l'idée, c'était vraiment de dire, attention, bienveillante, ça peut conduire aussi à de la manipulation douce, notamment, c'est l'histoire de ces faux choix donnés. C'est un conseil qu'on entend souvent en parentalité positive qui est si votre enfant veut pas s'habiller, donnez-lui le choix entre deux pantalons, le vert et le rouge. Alors en soi, je pense que ça peut être une stratégie d'urgence quand on est à la bourre le matin et pour éviter la crise, voilà. Mais attention à ce que ce soit pas non plus une manière de censurer La colère et la frustration de l'enfant. Parce que si on lui donne toujours des choix, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas capable en tant que parent d'entendre son besoin d'autonomie et puis sa frustration parce que, il avait envie de choisir tout seul. Donc voilà, c'est en ce sens-là que moi, du coup, je préfère parler d'éducation bien traitante dans le sens où on met le respect de l'intégrité de l'enfant au centre et on le prend au sérieux. C'est-à-dire que, ok, mon enfant va peut-être faire une crise parce qu'il ne veut pas s'habiller, il ne veut pas mettre le pantalon que j'avais choisi. Je suis capable d'accueillir ça. Je ne vais peut-être pas forcément passer par une manipulation douce de lui proposer des choix parce que je ne me sens pas à l'aise, parce que c'est moi qui suis touchée dans l'affirmation de son autonomie. Donc voilà, bientraitance pour moi, c'est vraiment prendre les enfants au sérieux, ne pas chercher à les manipuler ou à passer outre leur consentement pour leur bien. Parce que pour leur bien, on peut leur faire du mal au nom du bien.
Est-ce que c'est nous qui avons envie qu'ils prennent le pantalon vert parce que ça va mieux avec le t-shirt qu'il a choisi ou des fois, est-ce que
C'est
c'est...
ça, voilà. Donc c'est en ce sens-là que il me semble que travailler sur notre propre intelligence émotionnelle, sur nos croyances, le filtre de nos valeurs est vraiment intéressant parce que ça permet de remettre le lien, la relation au centre plutôt que de se focaliser sur l'enfant. C'est ce que je disais en introduction, hein. Plutôt de se focaliser sur ce que je fais faire à l'enfant, dire pourquoi moi j'insiste et puis dans le lien que j'entretiens avec lui, dans l'interaction, qu'est-ce que je peux intégrer comme souplesse en fait? Et qu'est-ce que je me sens capable d'accueillir qui vient de chez lui, mais qui en fait ne m'appartient pas et qu'il a tout à fait le droit de vivre.
C'est intéressant. J'aimerais maintenant qu'on enchaîne sur l'empathie, un gros sujet aussi, l'empathie. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez aussi nous parler après d'auto-empathie? Comment on peut s'y prendre pour faire preuve de douceur envers soi-même? Voilà, je trouve que l'empathie et l'auto-empathie sont vraiment deux sujets aussi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un sujet qui a pris aussi, enfin, qui avait de l'importance dans votre livre, et j'aimerais que vous en fassiez profiter les auditeurs.
Oui, alors l'empathie, là on rejoint aussi un petit peu hein, la communication non violente, c'est vraiment la capacité à se mettre à la place de l'autre et de voir le monde avec ses yeux. Et c'est la capacité à entendre l'autre, à le voir, à le rejoindre, sans chercher à modifier ce qu'il pense. C'est vraiment dire simplement, je vois que tu es en colère. C'est comme une caméra et dire je vois que tu éprouves telle émotion. Ah, et tu aurais aimé que moi je dise autre chose, ou quand j'ai dit ça, eh ben ça t'a blessé, ou ah, tu aurais aimé que ton copain fasse ceci ou ne fasse pas cela. Voilà, c'est vraiment faire en sorte que l'autre se sent vu comme être humain, sans se sentir ni jugé, ni mauvais, ni inadapté. Voilà, c'est être dans cette capacité-là à l'accueillir sans chercher à agir sur lui. Ça ne veut pas dire non plus être dans une espèce d'identification à lui, c'est-à-dire l'empathie, ça ne doit pas non plus être ah oui, un tel t'a tapé, viens, on va aller le taper en retour parce que c'est totalement, il faut te venger, c'est totalement inadmissible. Ou s'écrouler en même temps que l'enfant parce qu'il a peur qu'il est triste et que nous aussi, ça nous chamboule tellement qu'en fait, on ne peut pas être en empathie parce qu'on est nous-mêmes effondrés et trop touchés pour. Il faut qu'on soit solide. Enfin, il faut. Être en empathie, c'est aussi être suffisamment solide en soi pour accueillir ce que l'autre vit avec la bonne intensité, refléter ce qu'il ressent sans se laisser. Submergé non plus. Et c'est vraiment un besoin humain fondamental et on a tous besoin de recevoir de l'empathie parce que c'est un besoin humain en fait qui nous est commun à tous et c'est pas si facile parce qu'on a souvent tendance à vouloir dire ah oh, mais c'est pas si grave. Regarde une telle, c'est pire que toi. Donc on va comparer. Ou alors dire oh, mais vois le côté positif des choses, allez, souris à la vie. Ou dire Ah non, mais maintenant arrête ta comédie là, faudrait savoir. Maintenant, tu m'as demandé conseil, tu m'écoutes pas, bon ben c'est bon. Enfin, voilà, en fait, on a souvent tendance à recadrer les pensées, à les minimiser, à les nier, alors que ben, ça, c'est pas de l'empathie en fait.
Et l'écoute empathique, ça peut être juste écouter sans chercher à juger, à minimiser tout ça.
Oui, c'est ça. Et l'écoute empathique, ça peut être juste à l'écoute sans interrompre la parole. Et par contre, tu es dans une pleine présence, une pleine attention. Et ça peut être juste dire des Ah, ok, ah ouais. Voilà, avec juste des signes qu'on est vraiment à l'écoute, qu'on est en pleine attention. Hein, mais sans, voilà, effectivement, sans rien faire. Et parfois juste en silence, mais être une présence chaleureuse, en tout cas. Et dans le non-verbal, montrer qu'on s'intéresse, qu'on prend l'autre au sérieux, qui révèle l'importance à nos yeux.
Et c'est pas évident hein, d'écouter sans interrompre, sans parler, juste écouter et être présent, c'est pas évident.
C'est ça. Et surtout en tant que parent, on a souvent tendance, moi je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais tendance à faire, de trop parler, voire même parfois harceler les enfants, à vouloir dire Ah là t'es en colère, ah oui, et c'est parce que un tel, ta copine, elle a dit ça, oh là là, ça doit être difficile. Et puis parfois en fait, ma fille, elle avait juste envie, mais maman, laisse-moi, ok, en fait ça va passer et j'ai pas besoin que tu sois à l'écoute de moi tout le temps, 24 heures sur 24, et je viendrai te le signifier quand j'ai besoin voilà, d'écoute. Donc voilà, oui, effectivement, mais en même temps, les enfants, ils sont assez forts pour ça, hein, pour nous faire comprendre quand c'est trop. C'est trop. Quand c'est pas assez, c'est pas assez. C'est quand ils vont venir un peu nous taquiner, nous chercher, dire, oh, ils cherchent l'attention, ils m'énervent, qu'est-ce qu'il a? Ils me grimpent dessus. Bah, c'est qu'en fait, ils cherchent de la connexion, ils cherchent peut-être effectivement à dire quelque chose qu'il n'a pas encore tout à fait les mots, ou il n'ose pas. Donc on peut aussi, voilà, c'est subtil, hein, effectivement, de se mettre à l'écoute de l'autre sans en faire trop, mais ni trop peu. Et puis en fait, puis des fois, si on se trompe, si on est à côté de la plaque, sans rendre compte, et puis juste se dire, bah ok, j'ai appris que là, c'était trop, c'était pas assez. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, hein, il peut y avoir cette culpabilité heureuse de ne pas y arriver, mais ça veut juste dire, bah ok, c'est que j'ai besoin de réaligner mon comportement. Puis une fois que je vais réaligner, ma culpabilité, elle va disparaître. Hein. On ne recherche pas à être un parent parfait non plus. Mais à apprendre des choses en fait, continuer à évoluer et à apprendre.
Pas un parent parfait, mais un parent conscient.
Oui, voilà, c'est
Voilà,
ça.
conscient.
Oui. Et puis qui se donne le droit à l'erreur, qui donne le droit à l'erreur à cet enfant, et puis qui se donne aussi le droit de changer en fait. Enfin, un jour, ma limite, elle va être ici, et le lendemain, elle va être plus basse ou plus haute parce que je serai plus ou moins fatiguée. Ben c'est OK, en fait, je suis humain et les enfants, ils sont tout à fait capables de s'adapter à partir du moment où on s'exprime dans un langage personnel, ni que j'humilie mon enfant, ou ni que je cherche à enrober, à dire, Oh non, mais tu sais, la maman, elle est fatiguée ce soir, allez, on part du parc et puis je vais te faire des petites crêpes. Non, on part du parc parce que là, moi, je suis vraiment fatiguée. On y va. En fait, on n'a pas besoin non plus d'être toujours des parents un peu mielleux. Ou voilà, être un parent bien traitant, c'est pas être un parent trop gentil ou trop calme, mais juste dans la pleine mesure de que ce que j'éprouve là sur le moment. Et puis d'autoriser mon enfant à dire, bah, il n'avait pas envie de partir, et bah, qu'il l'exprime. Ok, j'accueille ça, sans le prendre pour moi comme un affront ou comme une marque d'irrespect.
D'accord. Et par rapport à l'auto-empathie, du coup, comment on peut s'y prendre pour faire preuve de douceur envers soi-même?
Ouais, alors l'auto-empathie, moi j'aime bien revenir aux cinq dimensions des émotions. C'est-à-dire qu'une émotion, donc on l'a dit, elle est accompagnée de sensations corporelles. Donc je peux me mettre à l'écoute de mon corps, dire ok, comment ça fait là dans mon corps? Où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sens qu'il y a comme un trou dans mon ventre et je me sens comme si j'étais vide et puis ça. J'ai l'impression de plus avoir d'énergie et j'ai les épaules qui tombent et vraiment je me sens fatiguée, je me sens lasse. Donc voilà, déjà être à l'écoute du corps. Puis après, dire mais qu'est-ce que je pense? Et puis là, j'ai l'impression que j'en peux plus, je me sens dépassée et j'aurais tellement besoin de soutien et je me sens seule parce que mon conjoint, ma conjointe ou ma famille est loin. Enfin, voilà. Donc déjà, se mettre aussi à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce que je suis en train de me dire là qui alimente un peu ce qui ne va pas? Ok, et là, qu'est-ce que j'éprouve? Déjà, me nommer aussi mon émotion. En fait, je crois que je suis vraiment triste parce que je me sens incompétente. Et puis là, j'arrive plus à trouver de sens dans ma parentalité. Et puis, je crois qu'il y a de la peur aussi, peur de que le quotidien, il ressemble à ça tout le temps, que ce quotidien, ce soit que des corvées et que j'arrive plus à trouver de joie dans ma parentalité. Donc voilà, et puis peut-être aussi nommer l'intensité de l'émotion. Ma peur, ma tristesse, elles sont à combien? De 1 à 10. Ouais, ma tristesse, là, j'ai l'impression qu'elle en est à 7-8. Vraiment, ça me. C'est difficile. Et ma peur, je dirais 6-7 sur 10. Donc voilà, déjà accueillir ce qui se passe. Et puis peut-être dire, ouais, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Moi, j'ai envie de pleurer. Bah, autorise-toi à pleurer. Autant que tu en as besoin, parce que c'est ce que ton corps te dit. Donc, vas-y. Ou j'ai envie de tout lâcher. Hein. J'ai envie de les laisser, de partir loin toute seule sur une île déserte. Bah, autorise-toi à avoir ces pensées-là. Peut-être pas à le faire, mais en tout cas à reconnaître que ouais, bah ouais, c'est normal, c'est difficile la parentalité quand on porte un travail à temps plein, quand on porte plusieurs enfants. Voilà, enfin, on sait bien, hein, il y a beaucoup de littérature sur la charge mentale en ce moment, sur le burn-out, c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment une lourde tâche d'être un parent à notre époque. Donc, s'autoriser ça, et puis après, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Peut-être que je peux m'imaginer qu'est-ce que me dirait mon meilleur ami, ma meilleure amie, et qu'est-ce que moi, du coup, je peux me dire comme si j'étais ma meilleure amie, et reconnaître que oui, c'est difficile, et puis passer à l'action ensuite, bah dire. Faire des demandes, demander à mon conjoint, à ma conjointe, écoute, là, je me sens dépassée, j'ai l'impression de plus avoir d'énergie, c'est très difficile, je trouve plus beaucoup de joie au quotidien, j'ai vraiment besoin de soutien, j'ai besoin qu'on revoie l'organisation parce que bah, je me sens partir dans des choses que j'ai pas envie de vivre. Alors voilà, et après, arriver avec ça auprès des personnes à qui on peut faire des demandes et parler de nous, de nos souffrances pour dire bah, j'ai besoin de solutions. Comment on peut faire? Ça peut aussi être intégrer des groupes de soutien à la parentalité, aller voir la PMI par exemple. Il y a des choses qui sont mises en place pour accueillir les parents en souffrance. Voilà, et puis s'autoriser aussi à prendre du temps pour soi. Alors, je sais que c'est un écueil de la parentalité, dire prenez soin de vous, ouais, bah, vous êtes gentil, mais moi, j'ai pas le temps, comment je fais? Enfin, j'ai des enfants, j'ai pas assez d'argent. En tant que maman solo, hein, je sais bien hein, ce que c'est. Mais voilà, voir dans quels moyens, enfin, dans quelle mesure, à un moment, on peut recharger nos batteries parce que c'est pas du luxe, en fait.
Et ça peut être des petites choses très simples, hein, comme danser, chanter, écouter de la musique, 5 minutes, quoi. Même si c'est très court, ça peut nous permettre de remplir notre réservoir, hein.
C'est ça. Ou alors même pendant 5 minutes, mais ne serait-ce que 5 minutes, se poser sur le canapé, commencer à lire. Et puis parfois, les enfants. Et puis dire aussi, là, moi, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de calme, mais c'est un besoin urgent. Je peux crier mon besoin de calme. C'est un besoin urgent. Et me mettre sur le canapé, dans ma chambre, à lire. Et en fait, quand on est suffisamment ancré, aligné, et qu'on s'adresse aux enfants de manière authentique, personnels, vulnérables, ils sont tout à fait capables de coopérer. Et moi, je l'observais assez souvent hein, quand je crie, c'est pas crier dans le sens de hurler, mais que j'affirme avec voilà, vraiment toute l'authenticité que je ressens, mon besoin de calme, de solitude. Ma fille a toujours été capable de le respecter et de me laisser quelque temps pour lire, pour boire un thé tranquillement, pour passer un coup de fil. Et puis après, peut-être quand les enfants font preuve voilà, de cette coopération, bah, de les remercier. Bah, merci d'avoir pris en compte, de m'avoir laissé un petit moment dont j'avais besoin. Et c'est comme ça que, eh ben, en accumulant ces petites pierres sur le chemin de la parentalité, ça devient des habitudes et ça devient une vie, en fait. Donc, bah, ne pas sous-estimer non plus, effectivement, les petits pas, les petites choses.
Et là, vous avez fait une belle transition sur les besoins, parce que du coup, j'aimerais voilà, parler aussi des besoins. On sait que les émotions, elles sont toujours en lien avec les besoins, et je crois que vous les avez classées en 6 catégories. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, Oui, alors l'idée c'est vraiment de dire, en fait moi dans la coéducation émotionnelle, il y a 10 chapitres qui correspondent à 10 points clés. Donc le premier point clé c'est de raisonner en termes d'émotions. Donc on en a parlé, de dire il n'y a pas d'émotions ni positives ni négatives, mais des messages à entendre. Et le deuxième point clé c'est de raisonner en termes de besoins. C'est-à-dire une fois que j'ai identifié mon émotion, sur quel besoin, satisfait ou insatisfait, elle attire mon attention. Et du coup, ces besoins-là, donc je les ai classés effectivement en 6 catégories. Donc il n'y a pas de hiérarchie hein, dans les besoins, il n'y a pas de bien ou moins bien. Enfin, ce sont juste ce qui nous permet de vivre, en fait, d'être aligné et d'être bien. Donc le corps, les besoins du corps, donc tout ce qui est besoin, bah, par exemple, de sommeil, nourriture, boire, régulation de la température. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important quand on est parent aussi de prendre en compte les besoins du corps des enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils sont tout à fait capables d'assouvir leur... Alors, les enfants, pas les bébés, mais à partir de 3 ans, hein, le fameux âge du non-opposition, c'est parce qu'en fait, ils commencent à être conscients de leurs besoins et donc ils peuvent les affirmer. Et de faire confiance à un enfant sur la régulation de sa température, par exemple.
Je rigole parce qu'en sortant de l'école aujourd'hui, j'ai entendu deux mamans crier sur leurs enfants parce qu'ils étaient en t-shirt. Il y a un petit rayon de soleil, enfin il y avait un petit rayon de soleil à midi. Et enfin les deux mamans n'ont pas réagi de la même manière. Il y en a une qui a dit ton pull, mais ça va pas bien, non, tu retournes le chercher. Et une autre maman qui a dit oh bah t'es bien réchauffée, mais qui s'est dit du coup bon bah apparemment il a pas froid quoi, c'est bon. Donc c'est rigolo que vous
Oui, c'est
parliez de
ça.
ça.
Voilà. Mais c'est exactement ça, c'est de dire, ok, bah, il peut gérer la régulation de sa température, et en fait, si je force, si effectivement je veux lui mettre un blouson parce que c'est moi qui ai froid, ou que j'estime que lui est supposé avoir froid, je risque de générer une crise, parce que lui va dire, mais non, j'ai pas froid, et il va finir par coopérer, alors c'est pas le bon mot, par se soumettre, parce que nous sommes les parents et on est en situation de pouvoir, mais sauf qu'en plus je dégrade sa confiance en lui, à cet enfant, quand je le force, parce qu'il va se dire, mais je peux plus me fier à mes sensations corporelles, je sais plus trop quand ça fait oui ou quand ça fait non en moi, parce qu'il y en a d'autres qui savent mieux que moi, et vaut mieux que je m'écoute pas trop, parce que d'autres savent mieux que moi. Et en fait, ça commence comme ça. Après, ça veut pas dire qu'il faut laisser les... Enfin, comment dire? C'est-à-dire que je peux très bien prendre un pull à côté, moi, en tant que parent, et puis quand mon enfant a froid, il me le demande, je lui donne, et fin de l'interaction. Ça n'a pas besoin d'être un drame, et j'ai pas besoin de lui dire, ah bah tu vois, je te l'avais bien dit. Non, mais juste, ok, t'as pas froid maintenant, peut-être que t'auras froid plus tard, je prends un pull, et puis on verra bien si t'en as besoin ou pas. Et quand on a besoin, on prend. Point. Et c'est pareil pour la nourriture, en fait. Et puis par exemple, quand on va au supermarché, c'est peut-être judicieux d'y aller quand les enfants n'ont pas faim, ou alors de prévoir un petit encas ou une petite bouteille d'eau aussi parce que il se peut qu'ils aient faim ou qu'ils s'ennuient, et donc boire un petit coup, manger un petit truc, ça peut aussi les occuper. Donc voilà, donc ces besoins du corps qui sont importants à comprendre, parce que ça nous permet aussi parfois de dire, ah, ok, là il fait une crise parce qu'il a faim, il a soif, il a trop chaud, il a trop froid, il a besoin de bouger. Il a été trop immobile à l'école, par exemple. Et là, en fait, il faut que je lui laisse au moins 15 minutes à se défouler. Et peut-être qu'on va rentrer à pied plutôt qu'en voiture. Ou peut-être que je vais me garer un petit peu plus loin de l'école pour qu'on ne rentre pas tout de suite en voiture de l'école parce qu'il a besoin de marcher, de prendre l'air. Enfin, voilà. Donc, une deuxième catégorie des besoins, ça va être les besoins du mental. Donc, en fait, moi, ce que j'appelle besoin du mental, c'est tout ce qui va toucher à être informé, par exemple, avoir des informations sur le déroulement de la journée, sur le déroulement du week-end, sur pourquoi le parent fait telle ou telle demande, besoin de découverte, besoin d'apprentissage, besoin de stimulation, besoin d'évolution aussi. Les enfants, ils ont besoin d'explorer. Donc ça peut être très pénible pour les parents, on est bien d'accord, le petit qui va pas arrêter de tirer la plante, de la déterrer parce qu'il tire dessus, ou qui va manger les croquettes du chat pour voir si c'est bon, eh ben oui, c'est pénible. Juste si je sais qu'il est mu par un besoin irrépressible d'exploration, de découverte, je peux le comprendre. Ça ne veut pas dire que je vais le laisser faire. Ça veut juste dire que je vais réagir avec moins de violence parce que je sais qu'il ne le fait pas pour m'embêter ou pour détruire ou je ne sais pas ce qu'on peut imaginer comme mauvaise raison, mais juste parce que bah, c'est dans sa nature et ça veut plutôt dire qu'il est en bonne santé mentale. Il explore. Je devrais plutôt même être content que mon enfant, il cherche à comprendre le monde, comment ça marche les gens, comment ça marche les choses. Voilà. Une troisième catégorie, c'est les besoins liés à l'amour. Donc ça va être aussi tout ce qui est recevoir de l'acceptation inconditionnelle. Donc ne pas dire à mon enfant tu es paresseux, tu es maladroit, toi de toute façon l'école c'est pas pour toi, mais d'être accepté voilà dans ses goûts, dans sa personnalité, dans son identité, et de recevoir aussi de l'affection et notamment du toucher. Il y a une citation que j'aime bien, alors je sais plus, c'est pas de moi, mais je sais plus de qui c'est, qui dit si vous ne recevez pas de caresses, votre colonne vertébrale se dessèche, ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment le toucher et un besoin humain fondamental, et l'amour, l'épreuve d'amour passe par aussi se toucher avec consentement, on est d'accord, mais voilà, les caresses, les massages, les câlins. Recevoir de la douceur, de la chaleur. Quatrième catégorie de besoins, ce serait le plaisir. Et là, c'est quelque chose qu'on a peut-être aussi tendance à oublier, nous, en tant qu'adultes. On a besoin de jeu, en fait. On a besoin de créativité. On a besoin de beauté aussi, d'être en contact avec du beau, de s'émerveiller, de se sentir parfois un peu même petit face à la beauté de l'espace, d'un grand arbre, d'une forêt, besoin d'être remercié aussi, qu'on nous dise merci. Voilà, donc je pense que c'est important du coup peut-être de réfléchir à comment je nourris les besoins de beau de la famille, les besoins de créativité. On parlait tout à l'heure d'une petite danse par exemple pour nous-mêmes, pour prendre soin de soi. Voilà, comment est-ce que moi aussi, en tant que parent, je me nourris moi-même en m'autorisant ce jeu, cette créativité, ce contact avec la beauté. Une cinquième catégorie, c'est tous les besoins liés à l'estime de soi. Donc, c'est-à-dire avoir du temps pour rêver, avoir du respect pour mon temps propre, le temps dont j'ai besoin, moi, pour apprendre, pour rêvasser, pour vivre ma vie, tout simplement. Mon besoin de m'exprimer personnellement, est-ce que j'ai aussi du temps, de l'espace pour parler de moi-même, de mes goûts, de faire des tests, tiens, ça me plaît, ça me plaît pas, pour pouvoir aussi donner le meilleur de moi-même et expérimenter la joie d'être moi, en fait. Et la dernière catégorie des besoins, c'est les besoins de relations, donc tout ce qui vont toucher à l'équité, la justice, la fiabilité. Et souvent on dit, de toute façon, il n'y a plus de respect, ma petite dame. Les jeunes générations, de toute façon, c'est fichu. Oui, mais alors dans quelle mesure est-ce que nous, on les respecte, les jeunes générations? Est-ce qu'on respecte les possessions de nos enfants, par exemple? Est-ce qu'on respecte, on parlait tout à l'heure des sensations, de la sensation corporelle, la température? Est-ce qu'on respecte leur goût alimentaire? Et puis aussi tout ce qui va toucher à les relations, le fait d'être en lien, le fait de passer du temps ensemble, de célébrer, voilà, et puis de sentir le plaisir de passer du temps ensemble, en famille notamment. Voilà, pour les besoins.
Pour les besoins. Alors, Caroline, je vous propose qu'on conclue avec est-ce que vous pourriez nous énumérer, du coup, les 10 points clés de la coéducation émotionnelle? On en a détaillé, enfin, vous en avez détaillé quelques-uns. On ne pourra pas tous les détailler, mais après, les auditeurs pourront aller lire votre livre. Est-ce que vous pouvez juste nous les citer, du coup, ces 10 points clés?
Oui. Alors, donc la coéducation émotionnelle, voilà, c'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui peut motiver nos actions en tant que parents, en tant qu'enfants, et pouvoir faire preuve de souplesse. Donc le premier point clé, ça va être raisonner en termes d'émotions. Ce que je disais, la vraie nature des émotions, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui motive mon enfant. Le deuxième point clé, ça va être raisonner en termes de besoins. C'est-à-dire, derrière ces émotions qui émergent, ben, en fait, quelle est la motivation positive, c'est-à-dire, quelle est la bonne raison en lien avec le besoin qu'a mon enfant d'agir ou que j'ai d'agir. Le troisième point clé, c'est raisonner en termes d'attachement. Et l'idée, là, c'est vraiment de dire, les enfants, ils ont un besoin d'attachement vital et toujours remplacer l'expression « mon enfant cherche l'attention » par « mon enfant cherche de la connexion ». Parce que ce besoin d'attachement, dans nos sociétés séparatistes, hein, où les enfants vont très tôt à la crèche, à la maternelle, eh ben, il est assez malmené et donc il y a des comportements inappropriés qui peuvent vraiment émerger de ce besoin d'attachement qui n'est pas satisfait, mais très tôt en fait, presque dès la naissance, du fait de l'organisation de nos sociétés. Hein. Et voilà, je ne veux pas culpabiliser les parents, mais il y a des contextes aussi qui font parfois c'est difficile. Le quatrième point clé, c'est raisonner en termes d'empathie. Donc, accorder de l'empathie à l'enfant pour me connecter à lui avant de chercher à faire quoi que ce soit, avant de chercher à rediriger un comportement. Le cinquième point clé, c'est raisonner en termes d'auto-empathie et d'amour de soi. Donc, c'est-à-dire, quand moi, j'ai plus les ressources pour écouter, parce que parfois, ça m'épuise de faire preuve d'empathie pour mon enfant. Là, j'ai atteint mes limites. Comment je fais pour me ressourcer et pour rester un parent bien traitant tout en m'écoutant moi-même. Le sixième point clé, c'est raisonner en termes d'histoire personnelle. Donc, c'est pareil, c'est aller chercher qu'est-ce qui, dans mon histoire, dans ma mémoire traumatique, dans mon style d'attachement, va faire que parfois je pète les plombs. Parfois, je n'arrive pas à être le parent bien traitant que je voudrais être malgré mes convictions, malgré mes valeurs, malgré mes lectures. Et bien, il y a des fois, ça ne veut pas. Donc, je peux aller travailler là-dessus. Le septième point clé, c'est raisonner en termes de stade de développement. C'est-à-dire, ben, mon enfant, il ne fait pas ce que je lui demande. C'est peut-être parce que au niveau moteur, il n'est pas capable de faire ce que je lui demande. Je lui en demande trop. Il ne peut pas rester assis à table plus de 2 heures. C'est juste pas possible. C'est pas lui, c'est pas moi, c'est la nature humaine de mammifère qui fait que non, un enfant, il ne restera pas immobile. Pareil, comprendre le développement cognitif. Par exemple, se dire que parfois, les mensonges, c'est pas un manque de respect, c'est que l'enfant, il ne se repère pas bien dans le temps. Donc, il n'est pas capable de nous dire quand il a fait telle ou telle chose. Ou parfois, il ne fait pas bien la différence entre l'imaginaire et puis ce qu'il voudrait qu'il arrive et ce qui est arrivé en vrai. Voilà. Et puis, en termes de développement émotionnel, comprendre que avant 5 ans, voire 7 ans même, l'enfant, il ne régulera pas ses colères lui-même. Ce n'est pas possible. Aucun enfant ne le fera. Sauf si on l'a vraiment maltraité et qu'à un moment, il s'est complètement soumis. Mmh. Mais ce n'est pas un signe de bonne santé mentale. Mmh. Le huitième point clé de la coéducation émotionnelle, c'est raisonner en termes d'environnement. Donc, c'est pareil, chercher ce qui, dans l'environnement, c'est-à-dire l'aménagement de la maison, peut-être mon emploi du temps familial, dans les rituels qu'on a mis en place, qu'est-ce qui va améliorer les relations et qu'est-ce qui va venir faire obstacle et du coup générer des crises chez l'enfant. Le neuvième point clé, c'est raisonner en termes d'accompagnement et d'enseignement de compétences plutôt que de punition. Parce que la bientraitance, elle est incompatible avec les punitions et les récompenses. Donc, comment on accompagne sans punition ni récompense? Et enfin, le dixième point clé, c'est raisonner en termes de droit à l'erreur, à la fois pour les enfants et les parents, et comment faire de notre culpabilité un terreau fertile pour évoluer en tant que parent, mais en tant qu'humain, et puis que personne en lien avec d'autres humains.
Mmh. Ouais, donc c'est très 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 riche comme programme tout ça. Caroline, on va conclure avec une citation, un livre et soit un coup de cœur, soit un coup de gueule.
Oui. Alors une citation, je vais reprendre une citation d'AMG Not hein, qu'on a déjà citée et qui est « Ce dont on parle est d'une direction et pas d'une perfection ». Voilà, parce que je crois vraiment chercher la perfection fait que soit on va finir par détester nos enfants, soit on va finir en épuisement. Donc voilà, cherchons déjà une amélioration et puis plutôt que la perfection. un livre, alors j'ai plutôt envie de citer un auteur, enfin une autrice en l'occurrence, qu'un livre, et ce serait Alice Miller, qui moi vraiment a révolutionné ma manière de penser ma parentalité. Alors si je pouvais en conseiller un ou deux, ce serait commencer par « C'est pour ton bien », et l'autre, alors c'est « Notre corps ne ment jamais », qui vraiment explique en quoi les violences éducatives, notamment ordinaires, qu'on a reçues dans l'enfance, influencent notre manière de voir le monde, les autres et nous-mêmes, la vie en général. Et un coup de gueule. Alors je vais mentionner quelque chose, un peu, je vais faire un peu un pas de côté, mais juste, je voudrais attirer l'attention et mettre en garde contre le fait que la bienveillance, pour moi, ne doit pas être associée à forcément la naturalité et tout ce qui serait anti-science. Parce que je vois beaucoup de choses en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment dans les cercles d'éducation bienveillante, où on va faire la promotion de la lithothérapie, de l'homéopathie, des fleurs de Bach, où on va dire que les écrans causent l'autisme. Enfin, et moi, je suis vraiment mal à l'aise avec ça, c'est-à-dire que... on ne peut pas dire que les neurosciences valident l'éducation bienveillante, bien traitante, et rejeter cette même science en ce qui concerne la santé et l'alimentation. Donc moi, j'invite vraiment les personnes qui s'intéressent à l'éducation bienveillante à faire preuve d'esprit critique et à ne pas, voilà, à ne pas faire en sorte que l'éducation bienveillante soit une porte ouverte aux pseudosciences. Parce que même dans certains livres que je lis et qui me plaisent, et ben des fois, ça m'arrive de trouver des références à la lithothérapie, aux fleurs de Bach. Et moi, je suis vraiment mal à l'aise avec ça parce qu'il n'y a pas de fondement scientifique et on ne peut pas accepter la méthode scientifique pour ce qui nous plaît, notamment le réchauffement climatique, l'éducation, et puis rejeter cette même méthode pour la vaccination ou l'alimentation. Donc voilà, moi et j'ai écrit des articles, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon blog Apprendre à éduquer et taper esprit critique par exemple, ou biais cognitif, et c'est des choses que j'ai envie de développer parce que voilà, je suis un peu mal à l'aise de voir cette dérive qui peut faire plus de mal que de bien, hein, très honnêtement.
D'accord. Et ben merci beaucoup Caroline pour aujourd'hui.
Je vous en prie, merci à vous, bonne journée.
Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine !